Bienvenue dans Raconte-moi El Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat El Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi El Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit: je souhaite que mon Rab me guide sur la voie droite. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et l'y trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: que voulez-vous ? Elles dirent: nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Il abreuva pour elles, puis retourna à l'ombre et dit: Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Puis l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et elle lui dit: mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui, et qu'il lui eut raconté son histoire, il, le vieillard, dit: n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver encore une fois pour continuer sur notre récit El Qasas, Sourate El Qasas, Sourate 28, merveilleuse Sourate. Et là, on reprend à la Ayah 22. Donc Moussa alayhi salam, dans le passage d'hier, eh bien, il quitte l'Égypte avec, après toutes les scènes là, comme ce que tu as pu écouter. Et donc là, il se dirige vers un endroit qu'il ne connaît pas. En tout cas, il prend la fuite et il va droit devant lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala emploie ce terme en disant tawajjaha tilqa'a Madian. Donc tawajjaha, c'est vraiment, donc waj, ça vient de waj, le visage, et c'est le fait vraiment de faire face en fait au chemin qui est devant soi. Il regarde droit devant lui, et là, contrairement à quand il marchait dans les rues de la ville où il était craintif et regardait un peu partout, là, il marche d'un pas déterminé et en fait, il n'y a pas d'autre issue. Il ne peut pas retourner en arrière, il ne va certainement pas aller à droite et à gauche. Et là, il fonce, il s'enfonce en fait devant pour échapper à la sentence en fait qui court après lui. Et donc Ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, donc nous a expliqué que Moussa alayhi salam ne connaissait pas le trajet qu'il prenait. D'accord ? Il se dirigeait vers Madian, mais sans le savoir. Allah, lui, nous donne l'information. Il nous dit, il va vers Madian. D'ailleurs, et à ce moment-là, c'est la première fois qu'un nom de ville ou d'une région est mentionné dans la sourate. Donc un peu comme dans sourate Yusuf, alayhi salam, eh bien, où le seul pays qui est mentionné, c'est l'Égypte. Donc on ne sait pas, enfin, on le sait avec l'histoire, hein, mais le Coran ne nous mentionne pas où vivait Yusuf, alayhi salam, avec son père avant d'arriver en Égypte. D'accord ? Ça, c'est très important comme information de se contenter de l'Égypte, en fait, comme info, en tout cas, par rapport à Sourate Yusuf, parce que c'est ça qui est déterminant. Parce qu'encore une fois, Sourate Yusuf avait été aussi révélée pour répondre, entre autres raisons hein, de révélation, il y avait aussi le fait de répondre aux Juifs au temps du prophète Sam qui lui avait posé des questions, un tas de questions exprès pour, pour le piéger. Et une des questions qu'il leur avait posées à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comment les Banu Israël sont entrés en Égypte et comment ils en sont sortis. Donc comment ils sont entrés en Égypte, c'est Sourate Yusuf qui va en parler. Donc Yusuf arrive et donc il y a cette fameuse aya où quand il dit quand ils sont entrés en Égypte en parlant des frères de Yusuf alayhi sallam et en parlant de Yusuf alayhi sallam lorsqu'il arrive. Et la sourate qui va parler de comment ils en sont sortis, donc ça va être plutôt Sourate Taha. Et peut-être un petit peu aussi sur la Qasas, mais surtout sur la Taha. Donc, ces réponses-là étaient très importantes. Et pour justement mettre le focus sur ça et répondre fermement, clairement à ces gens, Allah n'a mentionné que cette localité-là, Égypte. Dans Surat al-Qasas ici, il nous mentionne Madian ici. Donc, on n'a pas le mot Misr ici, n'est pas mentionné, mais on a le mot Madian. Donc, la ville, la région où Moussa alayhi salam se dirige, parce que c'est très important ici aussi, cette information-là, tu vas le voir aussi au fur et à mesure, pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que finalement c'est, Allah mentionne ça et pas forcément d'autres localités. Donc il demande à Allah sa direction. Il ne sait pas où il va, mais il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la direction et de le guider en fait vers la voie droite. Et il dit « Sawa as-sabil ». Sawa, ça veut dire « droit, régulier ». C'est quelque chose aussi qui a une certaine normalité, équité, juste milieu. Donc en gros, là, dirige-moi, ya Allah, là où je trouverai enfin l'équilibre après tout ce qui s'est passé, une certaine stabilité, d'accord ? Il faut se dire aussi que Moussa alayhi salam, ce voyage, il est un petit peu, ça signe un tournant en fait dans sa vie parce que jusqu'à présent, même si Allah l'a sauvé, l'a mis dans de bonnes conditions, il a été élevé par des nobles personnes, malgré qu'il était aussi en contact avec Pharaon, eh bien, il faut se dire que Moussa alayhi salam, toute sa vie, il a vécu un peu entre deux destins. Hein. Donc, parmi les Égyptiens, sans vraiment être des leurs, et faire partie aussi de Banu Israël, sans vraiment vivre avec eux et vivre ce qu'ils vivent. Donc, Moussa alayhi salam, il y a des questions existentielles qu'il peut se poser, en fait, à ce stade de sa vie. Qui suis-je? Quel est mon destin? Pour quelle mission Allah m'a créé? Pourquoi j'ai été sauvée dans le Nil, en fait, pourquoi ma vie a été sauvée et pourquoi, en fait, j'ai pas été égorgée comme j'aurais dû l'être. Quel est mon destin, en gros? Donc, pourquoi est-ce que j'ai vécu dans le palais de celui qui tue les miens, en vrai? Donc, il n'a rien à part Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là. Il n'a rien, rien ni personne. Et il ne peut rien faire d'autre à part avancer, en fait. Il ne peut pas reculer, hein, parce que sinon, c'est Pharaon et les autres qui l'attendent. Et donc, il ne peut que aller devant parce que la marche arrière est impossible. Et donc, dans la Ayah 23, il arrive à destination. Donc, quand il fut arrivé au point d'eau de Madian. Donc, on voit qu'il arrive à un point d'eau. Donc, ça peut être un puits, ça peut être... voilà, peu importe. En tout cas, il y a un point d'eau. Et donc, on comprend ici et on sait, du coup, qu'il était dans un désert. Que c'était un désert qui séparait l'Égypte où il était à Madian. Parce qu'on parle d'un point d'eau. Et on parle d'un point d'eau quand, après un désert, parce que c'est dans un désert qu'on ne peut pas trouver d'eau. Et donc, quand on arrive enfin dans une ville, là, on peut s'abreuver, manger, etc. Et donc, on a encore une confirmation qu'il est bien arrivé à Madian. Donc, pendant qu'il se dirigeait vers Madian, Allah savait où il allait. Lui, il ne savait pas où il allait, mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Sawa as-sabil. Et Allah dit, et quand il est arrivé, donc finalement, il est arrivé sain et sauf, à cette destination, en tout cas, qu'Allah lui avait prévue. Et donc là, sûrement, il a dû boire et après aller se reposer sous l'ombre d'un arbre. Et donc, Allah nous montre un petit peu la vue de Moussa alayhi salam. D'accord ? Donc là, l'objectif, hein, il change régulièrement. Là, on a la vue de Moussa alayhi salam dans cette ayah-là. Donc, il trouve un attroupement donc, de gens. Donc il dit « Ummatan minan nas », donc un groupe de gens, d'hommes parmi les gens. Et donc Moussa alayhi salam, il est observateur. Hein. C'est quelqu'un qui observe très bien, qui est très attentif et à l'écoute. Donc il voit ça au loin, il trouve la scène étrange. Il dit « Donc il y a un attroupement d'hommes, il y a des bêtes, ces hommes-là donc, ont l'air de s'éterniser devant. » Et puis, il y a des femmes qu'il voit au loin. Donc, vraiment, elles sont vraiment à l'écart. Elles se tiennent bien, bien à l'écart. Wajada min dounihima imra'ataini. Donc, vraiment à l'écart de ces hommes-là, il voit deux femmes. Et Allah dit tazoudan. D'accord ? Donc, c'est le verbe qui est employé pour dire qu'elles retiennent quelque chose. Donc, elles retiennent leurs bêtes. Donc, Allah ne mentionne pas les bêtes, il dit juste tazoudan. Après, à comprendre, elles sont en train de retenir leurs bêtes. Donc, tazoudan, ça vient de la racine zada, qui signifie retenir quelque chose de toutes ses forces, ou protéger, ou défendre. D'accord ? Donc, Moussa alayhi salam, il trouve la scène étrange. Et on sait que Moussa alayhi salam, eh bien, il a une qualité quand même de justicier. Il veut réparer, il veut faire le bien, contrairement aux paroles de ce semeur de troubles qui disait « Ah, toi, tu veux pas être un bienfaiteur, tu veux juste causer la corruption et être un tyran. » Non, d'accord. Moussa alayhi salam fait vraiment partie des muslihin, il fait vraiment partie de ceux qui veulent réparer. Et ici, en fait, si tu regardes bien, on a une situation miroir. Et un autre cas en fait à analyser pour Moussa alayhi salam. Et on voit bien qu'il a traité ce cas-là là, différemment de celui qu'on a étudié la veille. Là, il est au calme. Bon, la situation aussi, elle est pas, il n'y a pas de violence. Hein, donc, c'est une situation vraiment différente. Mais il est tranquille, il est au calme. Il aurait pu aller se disputer avec ses hommes, les gronder, leur dire « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous pousser un petit peu pour qu'elle puisse abreuver. » Enfin, il y a forcément un problème. Donc, mais Moussa alayhi salam, il s'est fait la promesse, en fait. Il s'est fait une promesse à travers les doigts qu'il a prononcés envers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les paroles, les serments qu'il a pris vis-à-vis de lui-même de ne plus recommencer certaines choses. Eh bien, on comprend qu'il ne veut plus être injuste envers lui-même, encore moins envers les autres. Il ne veut plus, en fait, venir à la rescousse de quelqu'un sans comprendre la situation, sauf s'il y a danger imminent et tout. Donc, il se lève calmement. Il part vers ces deux femmes avec une simple question. Ma khatabukuma. Donc c'est traduit à c'est vous deux, hein, d'accord ? Donc c'est quel est votre problème à vous deux ? Donc c'est la conjugaison en arabe, elle est très belle parce qu'en arabe on a vous deux, on a le duel et on a le pluriel. Donc singulier, duel, pluriel. Ce qu'on n'a pas en français. En français on n'a pas de duel. Et là il dit vraiment quel est votre problème, votre souci à vous deux ? Et si tu regardes bien la parole de Moussa alayhi salam, c'est très important. Moussa alayhi salam, il parle peu hein, dans cette sourate. Il n'y a pas trop de discours de sa part. Donc quand il y en a, il faut les saisir. Et ce n'est pas quelqu'un qui bavardait beaucoup et qui aimait beaucoup parler. D'accord, Moussa alayhi salam, c'était quelqu'un de très pudique, très réservé, de ce qu'on décrit de sa personnalité. Donc quand il faut parler, quand un homme comme lui parle, eh bien, ses paroles souvent sont à prendre vraiment en compte, encore plus que quelqu'un qui parle... du matin au soir, quoi. Eh bien, si tu regardes bien dans sa manière de parler, dans sa question, là, il y a une question hein, seulement. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de futilité, il ne tourne pas autour du pot. Même le salam, il n'y est pas, limite. Allah ne l'a pas capturé. Peut-être sûrement qu'il a dû poser la question ou pas, hein, mais Allah ne l'a pas capturé. Et pareil, en général, dans le Qur'an, quand quelqu'un s'adresse à une autre personne, eh bien, en tout cas, Allah capture... La formule en fait par laquelle la personne elle appelle. Il y a Moussa, il y a Abati, oh un tel, oh une telle. Il y a toujours cette appellation. Là, il aurait pu dire oh jeune femme, oh mes sœurs, oh vous deux, je sais pas. Mais là, il ne mentionne pas ça. C'est-à-dire, il fait pas de fioriture en fait. Directement, quel est votre problème à vous deux ? Expliquez-moi. En fait, il veut juste comprendre. La situation est trop bizarre pour lui. Et donc, il veut juste comprendre. Et elle lui répond, en fait, finalement, avec la même rigueur que lui, en fait. Elle parle d'une seule voix, donc Allah dit, et elle, dans le sens, elle répondirent. Donc, c'est pas une, on sait, donc on comprend qu'elles sont deux. On l'a compris parce que quand Allah décrit la scène, il dit qu'il voit deux femmes à l'écart. Puis Moussa, alayhi salam, dans sa parole, il s'adresse à ces deux femmes, quel est votre problème à vous deux ? Et là, Allah dit « elles dire », donc les deux disent « qalata ». Donc les deux dire « nous n'abreuverons pas tant que les bergers ne seront pas partis ». Et elles ajoutent « et en plus, notre père est quelqu'un de très âgé ». Là aussi, c'est très intéressant de voir et d'analyser, de se concentrer sur leur manière de répondre. Donc déjà, Allah ne sépare pas leurs paroles ici, c'est les deux qui parlent à l'unisson d'une seule voix. Et elles, c'est pareil. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas « Oh, jeune homme, oh, monsieur, cher frère », il n'y a pas ça. Il n'y a pas de fausse gêne aussi, d'accord ? Parce qu'on peut être intimidé, hein, on est des femmes, il y a un homme qui vient nous parler, on peut perdre nos moyens. Non, elle reste digne. Il n'y a pas de « oui, c'est-à-dire que ». Non, la réponse, elle est claire. Elle est détaillée, il n'y a que les détails qu'il y a besoin, sans plus. Elles expliquent « On ne veut pas se mélanger à ces hommes. Ce ne sont pas nos mahrams, ils sont beaucoup, on est deux femmes, ils n'ont pas l'air d'être des gentlemen, hein, tels qu'ils sont décrits aussi dans les narrations. Ils ne sont pas galants, ils ne sont pas gentlemen, ils font leur vie. Ils n'ont peut-être même pas remarqué qu'il y a des femmes qui attendaient. Peut-être même qu'ils ont remarqué, mais qui restent à blabla, 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 et qui ne prêtent pas attention. » Et donc elles attendent, ça veut dire qu'elles vont attendre. D'ailleurs, elle le dit « hatta yusdira ri'a'u ». Donc c'est vraiment qu'ils aient le temps de finir, d'abreuver toutes les bêtes, que chaque bête est finie, etc. et qu'ils s'en aillent. Et là seulement, elles vont abreuver. Et donc d'ailleurs, dans les narrations, c'est important ce détail-là, il se trouve que c'était un point d'eau, un puits à peu près, enfin, on va dire décrit comme un puits, où en fait, c'est le genre de puits où il y a des couvercles. En fait, on met une sorte de pierre plate ovale par-dessus pour la refermer. Et en fait, les narrations expliquent que ces hommes-là, quand ils ont fini d'abreuver leur bête, en fait, ils sont restés près du puits. En fait, ils avaient couvert le puits avec cette fermeture-là. Donc, un gros rocher en plus où il faudrait au moins 10 hommes robustes, hein, 10 hommes bien robustes pour l'enlever. Donc, retiens ce détail. Et donc, ces femmes-là expliquent pourquoi elles n'abreuvent pas leurs bêtes, pourquoi elles sont en train d'attendre, et donc, du coup, elles retiennent les bêtes, parce que les bêtes, bah, elles vont dans tous les sens, elles voient un point d'eau, elles ont envie d'y aller. Donc, en fait, elles retiennent leurs bêtes. Donc, déjà, c'est quand même pénible. Donc, c'est pour ça que ça a étonné Moussa alayhi salam aussi. Il se dit, mais je comprends pas, il y a un point d'eau. Elles ont leurs bêtes. Les bêtes essayent d'aller vers le point d'eau. Et elles retiennent les bêtes. Et péniblement, en plus. Quel est le problème? Donc, il pouvait pas comprendre sans leur poser la question. Il était obligé d'aller voir. Il pouvait avoir des suppositions, etc. et tout. Mais là, on apprend quelque chose. Tu vois une situation qui t'étonne. Tu veux porter assistance à la personne. Commence par prendre la température. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as besoin? C'est ce que Moussa al-Salam a fait. Il ne sait pas. Alors, il essaie de se renseigner. Et donc, elle répond à ça. Elle pouvait s'arrêter là. Mais elles sont très intelligentes. Elles donnent un autre élément de réponse à Moussa alayhi salam en parlant de leur père. Parce que, effectivement, Moussa alayhi salam déjà peut trouver cette situation bizarre. Mais une fois qu'il a cette réponse-là, il aurait pu aussi se dire « Mais comment ça se fait que ce sont des femmes déjà qui font ça ? La preuve, il n'y a que des hommes ici, ce sont les deux seules femmes. » Et donc là, elles anticipent ce que Moussa alayhi salam pourrait penser et disent « Notre père est âgé. » D'accord ? « Abuna Shayrun Kabir ». Ça peut se traduire comme donc, Shaykh, dans le sens, il est vieux, âgé. Et Kabir, très âgé. Ça peut se traduire aussi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est un chef, en fait. C'est un chef chez lui. D'accord ? Et donc, en disant ça, elle donne plusieurs informations à Moussa, alayhi salam. En gros, notre père, il est super âgé. Il est très occupé dans sa position d'autorité. Donc, il peut clairement pas venir faire ça. Donc, c'est nous qui devons venir. Et elle sous-entend ici aussi, et Moussa, alayhi salam, peut comprendre entre les lignes que il n'y a pas d'autres hommes en fait dans leur famille. Et leur père aussi n'a pas peut-être pu engager, ou en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui travaille à son service. Donc, elles sont obligées de venir s'occuper de ça, de cette tâche pénible. Et là, c'est beau parce qu'on voit des femmes qui connaissent leur devoir, donc elles prennent le rôle quand la situation le demande, mais la manière dont elles parlent de ça en disant que leur père est âgé, donc sous-entendu, en plus, il n'y a pas d'autres hommes pour faire ça, on voit très bien aussi qu'elles savent distinguer les tâches qui sont normalement réservées aux hommes par rapport à leur force physique, par rapport aux femmes. Et elles montrent à Moussa alayhi salam qu'elles font ça par devoir, d'accord ? Et qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'une femme, si elle a le choix, elle vient pas faire ce travail-là. Parce que c'est pénible, c'est fatigant, c'est un monde où il y a plein d'hommes. La preuve, elles se mélangent pas, donc c'est pénible parce qu'elles doivent en plus attendre, retenir les bêtes. C'est très physique tout ça, c'est le travail d'un homme. Donc on découvre ici deux femmes très intelligentes qui interviennent dans la vie de Moussa alayhi salam. Donc tu vois, Moussa alayhi salam, il est entouré, machallah, dans cette sourate, on voit vraiment l'entourage féminin de Moussa alayhi salam et à quel point ça a joué un rôle crucial dans sa vie et dans sa formation, dans son éducation. Et c'est pas anodin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait capturé ça dans cette sourate, c'est une des sourate que j'aime beaucoup aussi pour cet aspect-là. Je trouve que ça valorise, pas seulement valoriser la femme comme pour dire oui, bon, la femme est mise en valeur. La femme est mise en valeur de manière générale déjà dans l'islam, mais ça lui montre en fait son rôle de mère, son rôle d'allaitant, son rôle de quelqu'un qui éduque, son rôle de parfois mère au foyer, son rôle aussi quand elle travaille à l'extérieur, son rôle quand elle aide sa famille, son rôle en tant qu'épouse aussi, etc. Eh bien, Allah est en train de remettre à l'honneur la femme dans ces rôles-là qui, dans notre société aujourd'hui, peuvent être rabaissés. Je lisais des articles récemment de femmes qui défendaient et qui expliquaient comment, en fait, le rôle de mère au foyer était de plus en plus mal vu aujourd'hui. Et on voit même mal, limite, les femmes qui ont le choix d'aller travailler à l'extérieur ou pas et qui décident d'être femme au foyer. Elles sont un peu pointées du doigt parfois. Je sais que là, il y a une trend un petit peu autour de ça où les femmes qui, voilà, elles ont le choix, elles décident d'être femmes au foyer. Et bien, des fois, elles ont les foudres, parfois même de femmes comme elles, pour le coup, qui sont actives et qui crient au féminisme. Voilà, le féminisme très mal placé. Je comprends toujours pas ce terme-là, mais en tout cas, tel qu'il est plébiscité aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec notre islam. On n'a pas besoin de cette case-là, en fait, pour avoir de la valeur. Allah nous l'a déjà donnée. Donc, je trouve ça très beau, en fait, comment Allah remet la femme à l'honneur dans le rôle qu'elle choisit d'avoir et aussi dans le rôle qu'elle n'a pas le choix d'avoir. Quand elle n'a pas le choix et qu'elle doit faire ça, dans ce rôle-là, Allah lui donne sa part de récompense, de contentement, de dignité. Quand elle a le choix et qu'elle choisit d'être auprès de ses enfants, qu'elle choisit d'aider ses parents, qu'elle choisit de travailler ici, qu'elle choisit en attendant de se marier pendant un célibat des fois qui se prolonge, qu'elle ne reste pas à rien faire, elle se nourrit de science, elle s'éduque, elle aide les autres, etc. Elle est utile à elle-même, à sa famille, à la société. Tous ces pans-là sont valorisés. D'accord. Donc on a le cas d'une femme qui est à la maison, on a le cas de femmes qui n'ont pas le choix et qui sortent travailler parce que leur père ne peut pas le faire et il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Rester à la maison? Elles vont pleurer? Elles vont laisser les bêtes comme ça? Non. Et on comprend aussi derrière qu'il y a un père qui fait confiance à ses filles et qui n'a pas le choix, mais qui est derrière ses filles. On va le voir au fur et à mesure que c'est vraiment un père qui est derrière ses filles. La ayah suivante, donc la ayah 24, Moussa alayhi salam, maintenant il a des infos suffisantes. Il a tout ce qu'il a besoin de comprendre. Il a même plus. Il comprend non seulement que ces femmes-là, pourquoi est-ce qu'elles abreuvent pas leurs vêtements? Pourquoi elles sont en train de les retenir si péniblement? C'est parce qu'elles veulent pas se mélanger à ces hommes-là, par pudeur, parce que ce sont pas leur mari, leurs frères, etc. Ce sont pas leurs mahram. Ces hommes-là ne sont pas des grands gentlemen. Donc Moussa alayhi salam, il se dit, ouais, ça c'est logique. En plus de ça, il comprend qu'il n'y a personne dans leur famille, dans leur maison qui peut faire ça. Alors Moussa alayhi salam, il ne continue même pas la conversation. Il ne rajoute pas « Attendez, Allah ne nous a même pas capturé ça ». Et on suppose qu'il n'a même pas pris le temps de dire « Attendez ». Genre, vous voyez les hommes, ou femmes, hein, peu importe, mais quand quelqu'un sait qu'il peut être utile et il en fait des tonnes, « Attends, je vais t'aider ». Ben non, Moussa alayhi salam, il est tranquille. Il se lève, il parle pas, il passe à l'action. D'ailleurs, on le voit avec la préposition « fa ».« Fa saqar lahuma ».« Fa », c'est quand il y a une action immédiate. Et alors, puis, d'accord. Et c'est alors que, immédiatement. Donc Moussa alayhi salam, il a l'information, il se dit dans sa tête « Ok, à l'action ». Et en plus, il a la force pour faire ça. Donc Moussa alayhi salam, comme dans les narrations qui décrivent vraiment bien ce geste, les compagnons le décrivent, comme Ibn Abbas et d'autres. J'aime beaucoup citer Ibn Abbas parce que ses narrations sont toujours très intéressantes. Il y a beaucoup, beaucoup de détails qu'il donne, qu'il a eu de Rasulallah. Donc quand on voit des hadiths d'Ibn Abbas, hein, je trouve que c'est... Il y en a beaucoup qui sont bien sûr authentiques et très forts, mais j'ai un attachement particulier envers Ibn Abbas et parce que aussi c'est un des premiers mufassir et exégètes du Coran. Et Rasulallah nous avait vraiment... montrer à travers lui que tout ce que Ibn Abbas disait dans la science, eh bien, il fallait l'écouter. Donc, il disait que, il expliquait justement cette scène-là, lui, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, que, en fait, Moussa alayhi salam, il est parti. Donc, il y a deux versions. Il y a une version qui dit qu'en fait, comme le puits en fait était couvert, comme les hommes étaient encore là, pardon. Il y a une version qui dit que comme les hommes étaient encore là, eh bien, il est parti dans un point d'eau qui était juste à côté, mais qui était couvert par un rocher. D'où le fait qu'elles n'avaient pas la force physique pour le faire, pour l'enlever. Et donc Moussa alayhi salam, on connaît cette force-là. Allah l'avait doté vraiment d'une très, très, très grande force physique. Il était très robuste. Sa carrure, etc., était vraiment imposante. Très fort, machallah. Et donc, du coup, sans vraiment d'effort, eh ben, il a soulevé ce couvercle très lourd, ce rocher, qui normalement aurait dû être soulevé par 10 hommes très robustes. Et donc, ça, c'est la première version. Il y a une autre version qui dit que quand en fait ces hommes-là sont partis, eh bien, ils ont couvert le puits, le point d'eau d'un rocher. Et donc, là aussi, il avait retiré ce rocher. En tout cas, ils ont été témoins de la force de Moussa alayhi salam. Et ce détail est important pour la suite. J'arrête pas de dire ça, mais c'est, je spoil pas plutôt. C'est important, en fait, à chaque fois. Je fais exprès, en fait. C'est pour ça que dans ce podcast-là, je veux vraiment que tu aies des lunettes... on va dire intelligente. Et donc, quand il y a un détail qui est important, je te le dis en avance de te dire attention, surveille bien ce détail pour qu'il fasse sens plus tard. Comme ça, ça nous permet de ne pas faire trop d'aller-retour après quand on arrive au passage en question et de se dire ah, tu te rappelles quand j'avais dit ça, et je réexplique, eh ben, il fallait retenir ce détail parce qu'aujourd'hui, ça nous sert, etc. Donc, retiens que le détail de sa force physique est important dans notre histoire ici. Et donc, Moussa alayhi salam, il passe à l'action. Et là, si tu regardes bien, il est parfaitement dans le rôle typique d'un homme, au sens que le Coran en donne, un homme awam. Oui, je vais reparler de ce terme, comme je vais reparler du terme d'une femme dans son rôle de femme aussi. Très important, parce que dans cette sourate-là, Allah nous fait des révisions un peu de ça. Et donc ça renvoie forcément à cette ayah que j'ai déjà abordée, je vais te mettre dans les notes de l'épisode, l'épisode en question. Être un grand homme dans son mariage, bon là, la question ici dans ce passage-là, dans cette scène-là exactement, c'est pas une question de mariage en tant que telle, même si c'est un... Je spoile pas, d'accord, j'arrête. Et donc, ici, je te renvoie à cette ayah-là dans Sourate Nisa, la ayah 34, le début de la ayah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ». Quand j'avais parlé de cet épisode dans le podcast, j'avais parlé de l'aspect de cette ayah dans le mariage. Et aussi, j'avais un peu parlé extérieur au mariage, qu'un homme a une certaine étiquette à avoir vis-à-vis des femmes de sa famille et des femmes de la société. J'avais pas trop détaillé le côté femme de la société. Et bien là, Allah le met en lumière ici. Donc les hommes sont qawam envers les femmes, comme la ayah le dit, à raison de ce qu'Allah a favorisé les uns par rapport aux autres et par rapport à ce qu'ils dépensent de leur argent. Donc les hommes sont qawwam envers les femmes. On avait très bien expliqué ce terme-là, d'accord, qui est très loin du terme autorité absolue, etc., comme malheureusement certains essayent de nous le faire croire. Ce n'est pas du tout ce sens-là, en tout cas littéral, unique qu'il faut prendre, mais c'est que les hommes sont gardiens des femmes. Un qawwam, pour rappel, là je fais des révisions, hein. C'est un terme en arabe qui vient de la racine qawama. Et donc ça désigne une personne qui détient la responsabilité, le devoir, la charge de gérer un travail, de gérer un système et de s'occuper de tout ce qui doit être fait par rapport à ce système-là, en prenant en compte tous les facteurs en fait environnementaux liés à ce système. Le rôle standard d'un homme, qawwam, à l'égard des femmes, et c'est très beau, je trouve qu'Allah ait dit les femmes, pas leur épouse, pas voilà, leur femme à eux, mais les femmes, an-nisa. Le rôle standard d'un homme à l'égard des femmes, un homme qawwam, comme mentionné dans cette ayah, à travers le mot qawwam, ce sont des hommes qui sont actifs, qui sont debout. Qawwama, ça renvoie à la racine aussi. Donc c'est quelqu'un qui est debout. Ce sont des gens qui font preuve de justice. Ce sont des gens qui ne sont pas passifs, ne peuvent pas être passifs en fait. Ce sont des gens qui sont constamment impliqués, qui sont dévoués, qui sont protecteurs, qui encouragent, qui soutiennent et qui prennent soin d'eux. C'est une grosse responsabilité envers les femmes dans cette ayah quand Allah dit « Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa ». Et ici, je veux te montrer l'exemple de quand ce sont des prophètes qui incarnent ça. Parce que forcément, ce sont les meilleurs des hommes. Et donc, les prophètes incarnent parfaitement cette caractéristique. Ils doivent être, ils le sont. Ils ont ce rôle de qawwam envers toutes les femmes. Et les prophètes sont des bergers pour leur peuple. Donc là, Moussa alayhi salam il est déjà dans cette posture-là. Et en plus, il a été éduqué par des femmes de grande moralité. Donc, il a appris auprès de ces femmes comment prendre soin aussi des femmes. Donc, les femmes doivent se sentir en sécurité parce qu'il y a un homme qawam qui est là, debout, dans la pièce, qui est là, dans la zone, in the place, pour dire les mots. Donc, à partir du moment où il y a un homme qawam qui est là, on doit se sentir en sécurité quand on est une femme. Et là, on voit très bien l'exemple avec Moussa alayhi salam. Avec les femmes, ces deux femmes-là, il a assuré son rôle de qawam envers elles sans qu'elles aient à le demander. Est-ce que tu as remarqué qu'elles ne lui ont pas demandé? Elles ont répondu à sa question, elles auraient pu ajouter « Est-ce que tu peux nous aider ?» Bah, comme tu es là, tu peux le faire? Ou bien vraiment attendre? Mais on voit qu'elles l'attendaient. Peut-être que dans leur tête, elles se disent bah, « Peut-être qu'il va faire quelque chose. » Mais en tout cas, elles n'ont rien demandé. Moussa alayhi salam savait ce qu'il avait à faire. Il a pris la température, comme un qawam qui se respecte. Il regarde, il veille, il voit des femmes tout de suite. Normalement, il doit se mettre en alerte. Le mode protecteur doit s'activer. Le mode « je vais répondre à Allah, je vais rendre des comptes à Allah parce que j'ai vu cette scène et j'ai détourné le regard. Je m'en fichais. Et c'est des femmes, elles vont se débrouiller, elles ont l'air de savoir ce qu'elles font. » Non, un homme qawam ne fait pas ça. Il prend la température, surtout s'il voit qu'autour, il n'y a personne qui leur porte assistance. C'est évident en fait que ces hommes-là ne sont pas des gens qu'elles connaissent bien et que ce ne sont pas des gens de leur famille. Donc lui, il se porte garant finalement de ces femmes-là. Mais comme il n'est pas leur mahram, il n'est ni leur frère, ni leur père, ni leur fils, ni leur cousin, et peu importe, ni leur oncle, eh bien, il protège leur dignité, il protège leur honneur. Donc ils ne s'éternisent pas dans la parole. Il prolonge pas le regard. Il ne fait pas des salam alek longs qui ne perdurent pas en fait dans la discussion. Il pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous en gros? C'est quoi votre problème? Et quand il a eu sa réponse, dans le silence, il a fait acte de qawama, il a vraiment fait son rôle. Et après quand il a fini, c'est pareil. Comme la ayah le dit, il est retourné en fait, il est retourné s'asseoir et il n'a pas demandé plus. D'accord. Et la Aya dit, il retourna à l'ombre. Donc, il a vrilli, et là, Ibn Abbas précise que c'est un arbre, à l'ombre d'un arbre, où il était sûrement assis, parce qu'il dit, il retourna. Donc, ça veut dire que peut-être quand il a vu la scène, il était sous l'ombre de cet arbre-là, en train de se reposer. Il a quand même fait un long trajet. Hein. Il est enfin arrivé, il atterrit, il est au calme, ça va, il peut souffler. Et là, il voit cette scène-là, ça le fait se lever. Il fait son travail. Et il retourne s'asseoir à l'ombre de cet arbre. Et là, il y a une des plus belles duas du Coran, je dois le dire, qui apparaît devant nous. Il dit « Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Une des plus belles duas de ton Coran. Donc « Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. » Je ne vais pas m'étaler sur la beauté de cette doua, parce que je l'ai abordée dans un épisode de podcast que je vais te mettre aussi dans les notes de l'épisode. Là, il y a des devoirs. Là, pour le coup, il y a deux épisodes à réécouter si tu veux te rafraîchir la mémoire. L'épisode qui parle d'un qawam et l'épisode où je parle de mes trois doigts préférés. Et il y a en vedette celle-là, cette doua-là de Moussa alayhi salam qui lui a offert finalement, qui lui a ouvert des très belle porte en fait, et cette doua là, elle est à prendre par cœur. J'aimerais que tu finisses ce Ramadan, si tu la connais pas déjà par cœur, tu dois la prendre par cœur. C'est une nécessité, c'est un soin de premier secours en fait, c'est les premiers secours cette doua. Tu dois la connaître s'il te plaît, et tu feras des doigts pour moi pour te l'avoir dit. Et je trouve ça très beau car là, les immortaliser dans cette sourate-là. Donc cette doua, c'est un collector, c'est 100 étoiles, quoi. C'est vraiment, elle est notée 100 étoiles. Donc, dans la ayah suivante, la ayah 25, là, Moussa alayhi salam donc a fait sa doua-là, et là on a, puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide, et elle lui dit donc, mon père t'appelle, donc mon père veut te récompenser. Et donc après, Moussa alayhi salam suit, et donc on a tout de suite la scène quand il a raconté son récit à cet homme-là, et cet homme lui a répondu, eh bien, n'aie crainte, tu as été sauvé des injustes. Donc là, si tu regardes la scène, pareil, là c'est des vidéos qui s'enchaînent là. Parce qu'on a des zones où il y a des blancs, en fait. C'est comme si la caméra, à chaque fois, elle va vers une scène et entre-temps, il s'est passé des choses, mais c'est pas capturé. Donc, on suppose, on devine. Et dans les narrations, on a aussi des informations. Mais je trouve ça très beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala saute exprès, va à l'essentiel, va vers une scène comme ça qui va nous susciter notre attention, attirer notre attention et créer un peu ce suspense. Donc Moussa alayhi salam, on s'est arrêté à, quand il repart sous l'ombre de cet arbre, il fait son invocation. Et après, il y a une des filles qui vient vers lui. Donc ça veut dire qu'elles ont eu le temps de rentrer chez elles, elles ont posé la question à leur père. Ah oui, soit dit en passant, il y a des gens qui disent que cet homme-là, cet homme âgé, c'est le prophète Shu'aib alayhi salam. Alors, Allah ne l'a pas mentionné ici. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam non plus. Donc, je ne vais pas le présenter comme étant cette vérité-là. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. En tout cas, beaucoup de narrations par rapport à justement au récit du prophète Shu'aib, par rapport à certains détails historiques de l'époque de Moussa alayhi wa sallam, portent à croire en fait qu'ils n'ont pas vraiment vécu à la même époque. Mais bon, c'est... En tout cas, nous, ce détail-là n'est pas important pour Al-Qasas, donc on ne va pas s'éterniser dessus. On sait juste que c'est un homme sage, qu'il était croyant et qu'il était donc, de Madian, donc vers le Hijaz, et qui sont en fait des descendants en fait, de la lignée de Ismaïl alayhi salam, alors que Moussa alayhi salam avec Banu Israël, c'est des descendants de la lignée de Ishaq alayhi salam. Donc en fait, c'est deux hommes pieux ici, deux croyants, deux musulmans qui se rencontrent. C'est ça qui est important de savoir. Et Madian est un endroit où Pharaon n'a pas d'autorité. Donc, ce sont des gens qui sont libres. Et donc, on a la scène où Moussa fait sa doua et après, on a la femme qui vient vers lui. Une des deux femmes en plus. Il y en a une qui manque. C'était deux qui étaient là, maintenant on en a une. Eh bien, sûrement quand elles sont retournées, ça, c'est les narrations qui nous expliquent. Là, pour le coup, il y a des narrations précises d'après Ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qui nous expliquent en fait que le père, en fait, a été étonné de voir ses filles revenir plus tôt que d'habitude. Parce que c'est forcément, elles abreuvent pas leur bête une fois par mois. Hein. Elles font ça plusieurs fois par semaine, peut-être même tous les jours. Et donc, il voit qu'elles sont revenues beaucoup plus tôt que d'habitude. Et là, il est étonné. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, elle raconte. Et donc, le père veut tous les détails. Donc, sûrement, elles lui ont fait un qasas de ce qu'elles ont vu en donnant des détails qui étaient importants et utiles. Et le père, sa première réaction, c'est de se dire, il était où quand vous êtes parti, en gros? Ah ben, il s'est assis sous l'ombre d'un arbre. Va le chercher. Une de vous, là, à toi, va le chercher. Et il veut le voir. Il veut le récompenser. Il se dit... En fait, il a compris dans le récit, même dans la façon dont les filles ont restitué, elles ont vraiment donné les détails importants. Donc, comment il nous a parlé, comment il n'a pas perduré, prolongé la conversation, la force physique qu'il avait, le fait qu'il s'est frayé un chemin parmi ses hommes, il n'a pas fait de scène, il n'a pas fait de problème, pas de scandale. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est reparti ce soir là où il était. C'est tout. Et donc, le père, il entend ça et il veut déjà, ne serait-ce que le remercier, déjà. Et peut-être qu'il en veut plus, peut-être qu'il veut l'embaucher, peut-être qu'il veut comprendre son histoire. En tout cas, il veut discuter avec cet homme. Et donc là, après, on a la scène de une de ces jeunes femmes qui vient vers Moussa alayhi salam. Donc là, vraiment, on a des discussions qui sont en coulisses, hors caméra, dans ce passage-là, c'est pas mal. Et voit aussi la confiance que ce père a envers ses filles pour que déjà, il les laisse prendre la charge d'aller abreuver les bêtes. Et là aussi, il aurait pu se lever lui-même et se dire « je vais aller chercher cet homme ». Ou bien envoyer, je ne sais pas, bah, je ne pense pas qu'il aurait pu envoyer un autre homme parce que sinon cet homme-là aurait été celui qui va abreuver les bêtes. Mais il aurait pu faire différemment. Il aurait pu aussi les envoyer, elles deux. Seul Allah sait la sagesse derrière le fait qu'il ait envoyé qu'une seule femme. Pourquoi pas avoir envoyé ses deux filles comme la première fois? Il en envoie une. Et donc, on voit la confiance qu'il accorde à ses filles et l'éducation qu'il a mis en elles pour avoir confiance en elles comme ça. Et on voit aussi dans la démarche de cette femme-là que son père l'a bien éduquée et qu'il a raison de lui faire confiance. Et elle sait aussi que son père lui fait confiance. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit sa démarche. Il dit « Elle est venue. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا » Il aurait pu, Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, le sens aurait été compréhensible s'il avait dit فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ إِنَّ أَبِي. Donc, l'une d'elles est venue et elle a dit. Mais Allah, en fait, insère un détail, important, visiblement, parce qu'il y a des noms de personnes qu'il ne donne pas, il y a des noms de villes qu'il ne décrit pas, il y a des époques qu'il ne décrit pas, il y a des détails qu'il ne donne pas. Et là, il nous décrit la démarche d'une femme ici qui est venue chercher Moussa. On aurait pu passer vite, en fait, nous, sur ce détail, se dire, bah, en fait, elle est venue chercher. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'arrête et décrit sa démarche, tamshi à al-istihya. Il aurait pu dire aussi faja'at tamshi, mais ça aurait été, voilà, elle est venue en marchant. C'est logique. Mais il dit, elle est venue à lui en marchant avec istihya. C'est traduit ici par timidité. Il y en a qui traduisent aussi par pudeur, timidité, pudeur. Donc istahya, ça vient de la racine donc hayya. Donc hayya, c'est la comment dire, il y a la notion dedans de gêne, il y a la notion de pudeur, de timidité, la vie aussi dedans il y a hayy, ce qui est vivant. Donc très intéressant. Ici Allah nous montre en fait qu'elle marchait avec une très belle balance dans sa marche entre plusieurs choses. Une belle balance entre la confiance, la dignité et la pudeur. Cette femme sait qu'est-ce qu'elle fait. Allah donne des détails subtils ici par rapport à déjà sa démarche, quoi. Enfin, parler de la démarche de quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de passages où Allah parle de la démarche de quelqu'un dans le Coran. Et là, on parle d'une sourate parmi les dernières sourates mécoises. Pour le contexte, hein, tu te rappelles, le prophète Sassam est en train d'émigrer. Et là, il y a ce détail dans cette sourate. En quoi c'est censé nous aider? En quoi c'est censé aider Rasulullah qui s'apprête à aller à Médine? Là-bas aussi, il y aura des femmes. Là-bas, il va passer à une vitesse différente à Médine, vu qu'il n'y a plus le danger comme à Mecca, etc. Ça va être l'éducation en termes de moralité, en termes de vie de tous les jours, en termes de, vraiment, en termes de lifestyle pour les musulmans. Donc tous ces détails-là sont utiles à Rasulullah, qui est un berger, qui est le père finalement pour tous les musulmans, et donc qui va devoir avoir toutes ces merveilles, toutes ces sagesses qu'Allah lui donne pour bien s'occuper des musulmans vers qui il va. Et donc ce détail, si Allah l'a mis ici, c'est que ça a toute son importance. Ce qui est bien, c'est que quand un détail n'est pas mentionné, c'est pas très grave si on ne le sait pas, mais quand Allah mentionne quelque chose, on n'a plus le droit en fait de se dire que ce n'est pas important. Impossible. Si c'est là, c'est que c'est important. Chaque point, virgule, voyelle, fa, préposition, lettre, a son importance dans le Coran. Et donc j'ai envie de dire, c'est même plus facile de voir les choses comme ça que ce qui est manquant est manquant. Enfin, ce qui n'est pas là, plutôt, n'est pas là. Alors que ce qui est là ne peut plus être ignoré. Et donc, ici, on apprend que la démarche d'une femme est impactante, que sa manière d'apparaître dans une société est importante. Et Allah le capture dans ce passage. Sa présence en tant que femme a un effet. Elle le sait. Et dans toutes les cultures, hein, la présence d'une femme a un effet. On le voit aujourd'hui dans la société. Une femme marche dans la rue, peu importe comment elle est habillée, ça laisse pas indifférent les hommes qui sont faibles d'esprit et simples d'esprit et qui les huent dans la rue, qui les harcèlent, qui les draguent, les sifflent, etc. Si la femme n'avait pas une certaine présence, ne faisait pas un effet impactant, les hommes faibles là comme ça ne réagiraient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, bien sûr, mais ça a un effet. Même pour un homme qui sait se tenir, pour un homme qawwam, ça a un effet. Les hommes peuvent le confirmer. Les femmes ont un effet sur les hommes. L'inverse aussi est le cas. Mais on n'a pas beaucoup vu dans la rue des hommes se faire siffler par des femmes. En ratio, je crois qu'on a vu plus des femmes se faire siffler par des hommes ou harceler ou aborder dans la rue indécemment que l'inverse, que des hommes. Donc là, il n'y a qu'à voir en fait. Allah nous a dit dans cette sourate qu'il allait nous parler bilhaq. Je fais régulièrement ce rappel pour qu'on se rappelle toujours où on est ici. Et donc cette scène nous montre que pour autant, malgré en fait sa présence, malgré ce qu'elle sait qu'elle dégage, hein, et là on parle de choses simples, hein, loin des histoires de puissance, féminisme, féminin sacré, là, tous ces trucs-là qui servent à rien, ces bêtises comme j'aime les appeler, faut pas être dans l'excès. La femme n'a pas une puissance qui dépasse ce que Allah donne à un être humain. C'est un être humain comme un autre. L'homme a sa dignité, a sa valeur. La femme a sa dignité, a sa valeur. Il n'est pas question de mettre les uns contre les autres, d'accord ? On est une team, en fait, d'accord ? Ça, je tiens à le mentionner parce que je sais que dans la communauté, malheureusement, il y en a qui se laissent un peu prendre par tous ces discours-là de « oui, la femme, puissance sacrée, elle a une grosse puissance, Allah lui a donné ». Non, non, non. Faut rester humble, comme cette femme. Elle nous montre en fait comment il faut se comporter. Faut rester humble, faut rester pudique. Il faut savoir sa valeur, c'est ça qui est important. Faut savoir qui on est, faut savoir notre potentiel, faut savoir ce qu'Allah a mis en nous. Il faut être au courant, parce que si on n'est pas au courant, on est naïf, les autres le savent et pas nous, les autres en profitent de nous, et nous on n'est même pas au courant du problème. Il faut le savoir, mais quand je le sais, je dois savoir quoi en faire. Et donc l'objectif pour une femme qui connaît sa prestance, qui connaît son aura, qui connaît sa présence, l'effet impactant qu'elle a envers la gente masculine et envers les autres femmes hein, dans la société de manière générale, eh bien... L'objectif, ce n'est pas, la réponse à ça, ce n'est pas de les enfermer. Ok, elle a trop d'effets, ben on l'enferme. Pour qu'elle apparaisse pas en société, on la met en quarantaine. C'est pas le but. On la met pas en marge de la société, une femme. Et cette scène-là nous le montre. Mais plutôt, on les encourage à s'engager dans la société, à être utiles. Et pour cela, elle marche avec pudeur. Elle agit avec pudeur. La démarche, en fait, ça, c'est plus que marcher, le simple fait de marcher. Marcher, c'est une allure, c'est une démarche, c'est un comportement, c'est un moyen d'agir dans telle ou telle situation qui est capturée dans la démarche. Donc la femme marche, agit, parle avec pudeur, d'une manière qui n'est pas provocante, d'une manière qui ne sous-entend pas des choses, où il n'y a pas des non-dits. Une femme a conscience de l'effet qu'elle suscite, alors elle apparaît en société parce qu'elle doit le faire, parce qu'elle a le droit de le faire, tout en se protégeant. Et là, Allah nous montre parfaitement la balance entre pudeur et la dignité et l'honneur, la pudeur et la confiance. Et toutes les sagesses sont capturées dans la démarche de cette seule femme. Et quand tu regardes aussi dans sa manière de parler, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas les petits rires là, mon père il t'appelle, et ou bien cette timidité excessive ou mal placée parfois, où on n'arrive même plus à parler, on hésite, on dit c'est-à-dire que. Non, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et en plus, elle s'est protégée. C'est mon père qui t'appelle, ce n'est pas moi. C'est mon père qui t'appelle pour te récompenser de ce que tu as fait. Et c'est fini. Et Moussa, alayhi salam, là aussi, la scène d'après, on a Moussa qui est en train de raconter son récit à cet homme. Donc là, on a envie de dire, il manque quelque chose. Le chemin, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, les narrations montrent aussi, d'après Ibn Abbas, Ibn Kathir et Abdullah ibn Mas'ud, en fait, Moussa alayhi salam, il s'est tout de suite levé, il n'a même pas cherché, lui aussi, c'est ça qui est beau, il n'a pas fait semblant, pas de fausse modestie, pas de, voilà, comme Youssouf alayhi salam, en fait, quand il fallait qu'il sorte de prison, qu'il interprète le rêve du roi et qu'il prenne les commandes, en fait, financières du pays, et qu'il soit le numéro 2 du pays après le roi de l'époque, il n'a pas fait semblant. Il savait qu'il était le plus compétent et il l'a dit, je suis bon gardien, et je suis donc je suis connaisseur aussi, d'accord, et donc aussi digne de confiance. Moussa alayhi salam, il a fait pareil, il a fait une doha en fait, il a demandé quelque chose à Allah, et là il voit cette femme qui vient et qui lui dit mon père veut te récompenser. Il sait pas c'est quoi la récompense, mais il se dit mais c'est la réponse d'Allah qui est là. Moussa alayhi salam nous montre ici que quand l'opportunité se présente, il faut saisir l'occasion. Faut arrêter de dire ah non non t'inquiète, j'ai fait ça comme ça. Non, non, je l'ai fait. Je l'ai pas fait pour. Je l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai pas fait pour quelque chose. Non, 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 je l'ai fait. Je l'ai fait vraiment avec une IA sincère et tout. Oui, tu peux avoir une IA sincère, mais quand on te propose quelque chose et que tu en as besoin, fais-le. Là, Moussa alayhi salam, il a nulle part où aller. Il a pas de travail. Il a pas de quoi manger. Il a pas de famille. Il sait pas où il va dormir cette nuit-là. Il est avec les mêmes habits peut-être aussi depuis des semaines ou des jours. C'est pas le moment en fait de choisir d'être. Voilà, de tâtonner, de dire « Ah non, 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 ça va ». Tu vois la fausse politesse, là, des fois, qu'on a, comme quand on mange chez quelqu'un et il nous propose de se resservir et par politesse, « Non, 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 t'inquiète, non, ça va ». Parce qu'on a honte de demander plus, alors qu'en fait, on a envie de manger. Le jour où la marmite va partir et que tu ne te seras pas resservi, eh ben ce sera tant pis. Quand on veut quelque chose, quand la personne nous propose quelque chose, excédant notre intérêt, on ne fait pas semblant. On dit merci et on y va. On ne va pas paraître glouton, on ne va pas paraître opportuniste si on y va. Là, Moussa alayhi salam aurait tort de ne pas le faire. Il demande quelque chose à Allah, Allah lui envoie la solution et lui, il s'assoit. Encore une fois, on laisse à Allah la charge du comment. Et Allah a décidé que le comment, ce serait comme ça. Eh ben, il respecte, c'est tout. Il se lève, et il y va, il se dit, là, c'est la réponse. C'est le khayr que je demandais. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il attend, mais il y va. Et là, Moussa alayhi salam, donc on arrive à cette scène-là où il raconte son histoire à cet homme. Donc le titre de la sourate ici apparaît. Falamma qassa alayhi al-qasasa. Donc, quand il lui a fait le récit du récit. Attends, on parle le même verbe. C'est comme s'il dit quand il lui conta le conte, quoi. Ou bien quand il mangea le manger. J'aime beaucoup quand Allah fait ça dans certaines sourates, où il emploie le même verbe avec la même racine que l'action en elle-même. Donc, qassa alayhi al-qasasa. Il lui conta le conte, quoi. Il lui fit le récit du récit, quoi. Donc, très bien dit. Donc, on lit actuellement, nous, on est actuellement en train d'écouter al-qasas. On est en train d'écouter le récit qu'Allah fait, on écoute Allah. Et cet homme sage, lui, il est en train d'écouter Moussa alayhi salam faire al-qasas. Je trouve ça trop beau parce que ça fait un peu Moussa raconte le qasas. Nous, actuellement, on est en train d'écouter al-qasas. Donc, c'est al-qasas dans al-qasas. Je ne sais pas si tu vois, mais ça, voilà, ça fait l'un qui s'imbrique dans l'autre. Je trouve ça assez intéressant là, en termes visuels, encore une fois. En termes audiovisuels, là, c'est très sympa ce qui se passe. Et donc, cet homme sage écoute Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam fait le récit de sa propre histoire. Et on sait que Moussa alayhi salam est un homme intelligent. Déjà, on est déjà au courant. Et le fait qu'Allah emploie le mot « qassa » comme sa mère avait dit à sa grande sœur « qassihi », on voit très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière, en valeur, l'intelligence de Moussa alayhi salam. Parce que là, juste avec ce verbe-là, on sait qu'il lui a restitué l'histoire de la meilleure des manières. Qu'il a raconté l'histoire avec les bons détails, les détails importants, pas les détails inutiles, avec la vérité, en toute vérité. Il lui a dit suffisamment de choses pour que l'homme sache qui il est. Et donc, en fait, il a dû lui poser aussi le contexte, comme nous, on a eu le contexte. Donc là, on peut faire confiance, on n'a pas besoin, donc Allah n'a pas eu besoin de nous donner les détails de tout ce que Moussa alayhi salam a dit, parce que non seulement on voit que Moussa alayhi salam lui a restitué les choses correctement. Juste le verbe qassa nous le dit. Et aussi parce que depuis le début de Surat Qassas, on est avec Allah en écoutant en fait. Donc Allah aussi respecte notre intelligence à nous. Il ne nous refait pas l'histoire parce qu'on est là depuis tout à l'heure, on regarde la scène. On est derrière l'écran depuis tout à l'heure, donc pas besoin de nous répéter tout ce qui a été dit. Donc là, si tu avais une vidéo par exemple, et qu'on voyait par exemple Moussa alayhi salam qui commence à raconter le récit, eh bien on entend... Tout a commencé quand? Et après, on voit la personne, la scène, elle change doucement et ça va vers une autre scène. Et on voit encore cette scène-là où Moussa est en train de dire, bah voilà toute l'histoire. C'est exactement ce qui se passe ici. Hein. Et donc, on a la réponse de cet homme-là. Et là, j'aimerais te faire un rappel sur ce qu'on a parlé hier à propos du gaslighting. Tu sais, le fait de faire croire à la personne que c'est elle qui a commis la chose, alors que pas du tout, c'est vraiment cette réversion-là de faire l'inverse de ce qui a été fait ou dit. Et une des façons d'aider quelqu'un qui a été victime de ce gaslighting, c'est de lui demander de raconter les faits, tels qu'elle s'en souvient, en mettant l'accent sur son récit, sur son vécu, et peu importe ce que d'autres ont pu raconter par la suite. Et si la victime exprime son ressenti, c'est très 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 important de le valider et de normaliser ce qu'il dit. D'accord ? Et c'est exactement ce que cet homme sage, ce père sage fait. On sent qu'il a écouté Moussa alayhi salam jusqu'au bout et attentivement. Et à la fin, il le rassure sans le juger. Il dit « La takhaf najawta min al-qawmi al-zalimin » Donc, n'aie crainte, tu as été sauvé, tu t'es échappé, tu es sauvé maintenant du peuple injuste. Et là, comme tu vois, c'est exactement la réponse à la doa de Moussa alayhi salam quand il dit « Rabbi najini min al-qawmi al-zalimin » Exactement la doa de sa mère, Asiya « Rabbi najini min al-qawmi al-zalimin » Donc non seulement la doa de Moussa alayhi salam a été répondue, et également celle de sa mère à travers lui. Donc en fait, il le rassure sans le juger. « N'aie plus peur maintenant, les injustes, ils sont derrière toi, maintenant, c'est fini. Pharaon, il n'a aucune autorité ici, à Madian. » Et quelque part, même, il le réconforte aussi en lui disant « Tu te rends compte, tu te rends compte en fait, t'as réussi à échapper de quoi ? T'as réussi à leur échapper avec tout ce que t'as vécu. T'es quand même arrivé là et t'as aidé mes filles. Et puis, t'as pas perdu ta moralité, etc., etc. Et donc, il a compris du récit de Moussa alayhi salam qu'il avait en face de lui quelqu'un qui a été élevé comme un prince, quelqu'un qui a côtoyé Pharaon, quelqu'un qui a été élevé par la première dame du pays. Il a tout ça, il a vraiment l'histoire, parce que Moussa forcément connaît son histoire. J'ai été sauvé, il s'est passé ça, etc., etc. Donc, cet homme, il a tout le tableau. Donc, il voit pas Moussa alayhi salam. Donc, il voit Moussa alayhi salam aussi comme un fugitif. Donc, il y a dans son histoire, il y a la part de « il est fugitif ». Il y a la part de « il a tué un homme ». Il y a la part de « il a jugé entre deux personnes sans se renseigner ». Mais il y a plein d'autres choses aussi. Mais cet homme, il prend toute la globalité. Et il ne juge pas Moussa alayhi salam. Juste avec cette phrase, on voit que il ne le juge pas, il le rassure. Ici, on apprend comment se comporter lorsqu'on écoute quelqu'un parler. Qu'il faut écouter déjà, avant de dire « oh, ouais, comment ? Ah bon ?» et dire « ah, mais moi aussi, il m'est arrivé ça. » Et des gens, ils ne vous écoutent pas. Au lieu de vous écouter, ils parlent de leur vécu à eux. Et donc, cet homme est en train de faire atterrir Moussa alayhi salam en lui disant, après qu'il ait fini de raconter tout ça, c'est comme s'il lui disait « tu es safe ici. Ici, on t'écoute. Ici, on ne te juge pas. Ici, on te croit. Ici, on te donne ta chance. Et on a su voir que tu étais quelqu'un de bien. » Malgré tout, ton histoire, ton vécu, tes mésaventures, etc. Très très beau passage, et j'espère en tout cas que voilà, le passage d'aujourd'hui t'aura plu. Il a été plus long que les précédents. Je te dis à demain pour la suite parce qu'il y a une suite avec cet homme et ses filles, je dis pas plus. Salam alaikum.